Ensemble sur Calade.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calade.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ensemble sur Calade. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Nous sommes le mardi 1er février 2022. Il fait un temps un peu gris dans le Beaujolais. On n'est pas à l'abri de petites averses cet après-midi. Et les températures se situent autour de 5 degrés environ. Qu'est-ce qui nous attend dans cette émission? Eh bien, nous avons rendez-vous avec le coach qui s'intéresse à sa manière à toutes sortes de sujets. Et n'hésite pas à nous faire part de son point de vue. Et puis on terminera l'émission en retrouvant Bertrand Lamure, notre libraire de la librairie Desmarais à Villefranche, qui est toujours de bons conseils quand il s'agit de lecture. Quant à notre invité du jour, il s'agit de Fabien Gomez. Il y a un an environ, il a lancé son activité de vente en ligne de thé et d'infusions biologiques. Et je crois que le mot biologique est important dans son activité. Cette entreprise, ça s'appelle Okoshira. L'occasion pour nous aujourd'hui de parler de thé, de ses différents types, parler de ses bienfaits, pourquoi pas parler de son histoire aussi, et puis de s'intéresser à une entreprise en ligne locale avec un an d'activité. Alors comment ça marche? Comment on se fait connaître? On en discute dans quelques minutes avec Fabien Gomez. Mais d'abord, on commence l'émission en musique. Je ne suis pas allé chercher bien loin. Voici Sarah Vaughan avec le titre Tea for Two. Nous sommes ensemble sur Calade. Il est 12h14. Merci d'être avec nous. Just a tea, a four, a two, and a two, a four tea. Just me for you, and you for me alone. Oh, nobody near us to see us or hear us. No friends or relations on weekend vacations. We want to have it known, dear, that we own a telephone. A sugar, sugar cake for you to take for all the boys to see. We will raise a family, a girl for you and a boy for me. Oh, can you see how happy we would be? Vaughan sur Calade avec Tea for Two.
Ensemble sur Calade.
100.9 Calade.
Et de thé, il va en être question aujourd'hui avec notre invité Fabien Gomez qui vient nous présenter son entreprise Okoshira. Bonjour.
Bonjour Mathieu, merci de me recevoir.
Et ben c'est un plaisir de vous avoir avec nous en studio. Okoshira, avant de parler de thé en détail, en quelques mots, qu'est-ce que c'est Okoshira?
Alors, Okeshera, c'est une toute nouvelle marque donc de thé. Parce que effectivement, je fais de la vente de thé et d'infusions bio. C'est une marque qui a été créée il y a un an. Et on me pose souvent la question sur la signification de cette marque, parce que c'est vrai que c'est une consonance japonaise, mais en fait c'est un barbarisme que j'ai créé à partir de trois mots japonais malgré tout. Donc je suis parti du mot ocha qui signifie thé vert en japonais, kocha qui signifie thé noir en japonais, et shiracha qui signifie thé blanc.
D'accord.
Et j'ai enlevé donc lecha pour ne garder que oko shira, et donc créer une marque comme ça entièrement neuve, dédiée donc au thé, aux infusions.
Très bien. Et alors pourquoi le thé? Qu'est-ce qui vous a donné envie de se lancer dans...
Alors ça c'est vrai que ça a été un grand cheminement, parce qu'en fait ça fait des années évidemment que j'avais envie de créer quelque chose. Moi je suis informaticien par ailleurs, donc j'ai un vrai métier entre guillemets, et puis ça faisait des années que je souhaitais créer quelque chose. Donc j'ai cherché pendant des années, l'idée géniale hein, comme beaucoup de gens, et puis j'ai fini par me rendre à l'évidence, moi une idée géniale elle s'impose à soi ou elle arrive jamais. Donc au moment du premier confinement, je me suis reposé les bonnes questions. Je me suis dit qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que tu as envie de faire et qu'est-ce que tu aimerais vendre, parce que c'est toujours le commerce qui m'a un petit peu attiré. Et en fait je me suis dit je vais faire les choses simples, je vais proposer des choses que j'aime tout simplement. Donc vous savez, j'aime beaucoup le thé, j'aime beaucoup les tisanes évidemment aussi, et je me suis dit c'est un marché qui est hyper concurrentiel mais qui est passionnant, donc autant se lancer là-dedans.
Et alors le thé, moi c'est quelque chose que je connais pas forcément. J'ai découvert sur votre site internet qu'il y avait plein de thés différents avec des spécificités différentes. C'est quoi le thé du coup?
Le thé, c'est une plante formidable, parce qu'en fait déjà tout l'été, parce que j'ai dit l'été parce qu'il y en a je vais vous en parler, mais il y a différentes couleurs et des centaines de thés différents. Tous proviennent d'une seule plante, qui est la Camellia sinensis, qui est le théier, l'arbre à thé. À partir de cet arbre à thé, en fonction du pays, en fonction de l'altitude, en fonction de la température, en fonction de l'humidité, en fonction du savoir-faire de l'exploitant, de l'éleveur, on arrive à créer des multitudes de thés. Alors, le thé nature peut déjà avoir des saveurs différentes en fonction des différents critères que je viens de citer, mais il y a également un phénomène important aussi qui est pris en compte pour la fabrication de différents types de thé, différentes couleurs de thé, c'est l'oxydation. Donc en fait, on va dire qu'il y a quatre grandes couleurs de thé pour faire les choses un peu simples, parce que c'est un peu plus complexe que ça, mais il y a donc du thé blanc, du thé vert, du thé bleu et du thé noir.
D'accord.
Et la différence entre ces différents thés, c'est l'oxydation.
Et donc c'est comment on s'en occupe après la récolte, comment on le prépare,
c'est... Alors en fait l'oxydation c'est un phénomène naturel. En fait pour bien imager, que tout le monde comprenne bien, quand vous coupez une pomme en deux, si vous la laissez à l'air libre, cette pomme va noircir. C'est un phénomène d'oxydation, c'est une action de l'oxygène et d'enzymes présentes dans le fruit. Le thé c'est exactement la même chose. Donc une fois qu'il est cueilli, si l'on souhaite faire du thé vert ou du thé blanc, à ce moment-là, très vite, on coupe le phénomène d'oxydation, parce que ce sont des thés qui ne sont pas du tout oxydés. Donc on les chauffe très brièvement pour détruire cette enzyme qui est responsable de l'oxydation. Si on veut faire un thé bleu, qu'on appelle aussi un thé semi-oxydé, ou un thé noir, qui est un thé complètement oxydé, à ce moment-là, on le laisse à l'air libre, dans des conditions d'humidité particulières, et on le laisse s'oxyder naturellement.
Quand vous dites qu'en fonction de l'endroit où ça pousse, du climat, etc., ça me fait penser à ce que vous m'avez dit hors antenne au vin. Alors, on est dans un pays de vin et c'est la même chose, c'est du raisin à la base et en fonction de là où ça pousse.
Oui, c'est exactement ça. En fait, moi j'y vois beaucoup de similitudes avec le vin. Parce que le thé, on peut l'aborder de différentes manières. On peut l'aborder vraiment comme un œnologue. D'ailleurs, il y a des œnologues du thé, c'est une profession qui existe. Donc on peut être vraiment à la recherche de saveurs et dans une intellectualisation de la dégustation. Donc c'est quelque chose qui peut être très compliqué. Ou on peut être... Et moi, c'est comme ça que j'appréhende le vin aussi. On peut être dans le plaisir, simplement dans le plaisir de la dégustation. Et c'est et la curiosité. C'est important d'avoir un petit peu de curiosité, parce qu'il y a quand même des thés qui sont extrêmement différents, avec des saveurs vraiment différentes en fonction des couleurs. Et puis, ce qui est intéressant avec le thé, c'est que c'est aussi un moment de pause, de détente. C'est une des rares boissons qu'on ne prend pas debout sur un comptoir ou sur un coin de table, comme un café. On aime se poser, on aime le préparer.
Il y a tous des rituels autour du thé.
Il y a un rituel, alors qui est exacerbé au Japon.
En fonction des cultures, ouais.
Exactement, mais qui est beaucoup plus simple chez nous, hein, heureusement, ouais. Parce qu'on passerait une demi-heure à préparer le thé. Mais cette approche-là est intéressante parce que voilà, on se pose. Ouais. En fonction du moment de la journée, on a envie de déguster un thé blanc ou un thé vert ou un thé noir. Mmh. Et c'est souvent du partage aussi. Donc, ouais. Et voilà, moi je mets un parallèle avec le vin parce que dans l'élevage et dans le plaisir de la dégustation, on retrouve des similitudes.
Ouais. Alors après le vin, on peut douter de ses bienfaits pour la santé. Est-ce que le thé, lui, il a des bienfaits pour la
santé?
Oui,
alors il en a plein. Alors, première chose qui est fondamentale aussi, enfin moi en tout cas, qui est fondamentale pour moi, c'est que je me suis orienté sur des thés bio.
Ouais.
Bio et équitable. Alors, pourquoi bio? C'est pas une histoire de goût, hein, on est bien d'accord. Un thé bio, un thé non bio peuvent être très bons. C'est simplement une histoire de pesticides. Il faut savoir que les thés, les jardins, on parle pas de vignoble hein, pour le thé, on parle de jardin. Les jardins sont souvent traités avec des pesticides et le thé est une plante qui capte énormément de pesticides. D'ailleurs, ce qui m'a interpellé, c'est une enquête de 60 millions de consommateurs qui a été publiée il y a un an et demi à peu près et qui révélait que dans certains thés, ils avaient trouvé 17 traces de pesticides différents. Et y compris dans des grandes maisons de thé.
Ouais.
Donc, pour moi, c'était déjà indispensable pour la santé de m'orienter vers du bio. Après, le thé en lui-même, il a des tas de vertus. Alors, les plus connues sont les vertus antioxydantes, grâce à une molécule qu'on appelle les catéchines. Et cette propriété antioxydante, ben c'est justement cette propriété qui permet de défendre les cellules, protéger les cellules. Enfin, schématise, hein, je fais ça brièvement, mais l'idée là, c'est qu'en fait, c'est une boisson qui est préventive, justement, par rapport aux cellules cancéreuses. Donc, je ne dis pas que ça guérit du cancer. Attention, hein, c'est pas du tout ce que je dis. Et je dis pas que ça empêchera quelqu'un d'attraper un cancer. Mais voilà, c'est une boisson qui est préventive. C'est une boisson qui est déstressante. C'est une boisson qui fait baisser le cholestérol.
Ouais.
C'est une boisson qui peut, surtout le thé noir, qui permet de lutter contre le diabète, notamment de type 2. Donc, et c'est une boisson qui brûle graisse. Ouais. Surtout, là, pour le coup, les thés verts et les thés blancs, c'est-à-dire les thés non oxydés. Donc, il y a plein de vertus qui sont prouvées aujourd'hui et qui sont démontrées par des études scientifique. Et voilà, la seule chose qu'il y a à faire, c'est en consommer régulièrement, les diversifier et surtout se faire plaisir.
Se faire plaisir avec. Vous, il y a un an, vous vous êtes lancé dans une aventure, je ne sais pas comment vous voyez les choses.
Oui, c'est une aventure, oui, tout à fait.
Un défi aussi de créer cette entreprise. Qu'est-ce que ça demande de créer un site de vente en ligne de thé?
Alors, ça demande beaucoup d'humilité et de temps. Alors, de l'humilité, parce que moi, étant informaticien, je pensais déjà sur l'aspect vente en ligne, avoir suffisamment de vernis pour pouvoir appréhender les choses de manière optimale. Bon, ça ne se passe pas du tout comme ça. Créer une marque, bon, c'est compliqué. Il faut créer donc le logo, il faut trouver le nom. Ensuite, il faut bon, évidemment trouver les bons produits. Il faut créer le site, mais faire un site qui soit bien optimisé et bien référencé, ce qui est toujours très compliqué. Après, il faut savoir se faire connaître. Ça, c'est le métier de commerçant que je ne connaissais pas.
Ouais.
Donc c'est des vrais challenges et c'est du travail de tous les jours. C'est aussi investir les réseaux sociaux, savoir se démarquer, ce qui est toujours un petit peu compliqué parce que les réseaux sociaux, ben, ça aussi demande aussi beaucoup de temps. Et quand c'est une double activité comme la mienne, c'est vrai que j'y passe mes soirs, mes week-ends, mes vacances. Alors par contre, c'est très grisant. Voilà, c'est une véritable aventure. C'est le terme que vous avez employé. Vous avez raison. C'est une aventure qui est grisante et on a toujours envie d'aller plus loin, toujours envie de faire plaisir. Et le meilleur des satisfactions, c'est quand un client me recommande auprès d'une autre personne ou quand un client recommande chez moi et qu'il me dit vos produits sont super. Là, je sais que j'ai gagné.
Là, c'est, c'est une réussite. Vous avez parlé du choix du bio. Est-ce qu'il y a d'autres choix que vous avez fait pour créer votre identité dans les produits que vous proposez?
Alors, moi, j'ai choisi déjà des produits bio et équitables, c'est-à-dire toutes les exploitations donc, qui fournissent ce thé bio sont des exploitations qui sont rémunérés à leur juste valeur, donc ça c'était aussi important. Je suis bien conscient que le thé, on n'est pas dans du local.
Ouais, bien sûr.
Les zones de production, c'est principalement l'Asie, donc on a la Chine, le Japon, on a l'Inde, le Sri Lanka, on a l'Afrique, bon j'en oublie certainement, on en a en Amérique du Sud aussi, on en parlait un petit peu tout à l'heure, donc c'est vrai qu'il y a énormément de zones de production, mais il n'y a rien en Europe, donc il y a eu quelques tentatives.
Ce serait possible d'en faire pousser en Europe?
C'est compliqué, parce qu'il faut quand même un climat qui soit proche d'un climat tropical. tropicales. Ouais. Et même l'Afrique, on peut se dire, oui, mais l'Afrique, il fait chaud. Mais non, les pays qui sont producteurs de thé en Afrique sont des pays qui ont des grands plateaux, des hauts plateaux. Mmh. Donc, je pense principalement au Kenya, qui est quatrième producteur mondial aujourd'hui.
Ouais.
Il y a le Rwanda.
Il faut une certaine humidité, c'est ça ?
Il faut de l'humidité, voilà. Il faut de l'humidité. Il faut une température qui soit... Enfin, pas trop de contraste, qui soit relativement douce. Il ne faut pas que ça gèle. Il ne faut pas qu'il y ait de parasites. Enfin, c'est une plante qui est assez fragile, hein, le thé, qui nécessite effectivement d'avoir une géographie particulière. Donc, ouais. On ne peut pas le
on
faire.
On ne fera pas pousser dans notre jardin.
Non, mais je crois qu'il y a une entreprise bretonne qui s'y essayait.
Ah, pourquoi
pas. Bon, alors, sur un hectare, ce n'est pas très concluant, mais c'est bien et c'est courageux. Il faut essayer, pourquoi pas.
Donc, il y a cette question de fournisseur qui est une problématique, qui peut être une problématique. Une fois que vous êtes fourni en thé, comment est-ce que vous gérez ça ? C'est quoi la deuxième étape pour vous ?
Alors, moi, je fais déjà de la vente en vrac. Qu'on appelle la vente en vrac, c'est du thé qui n'est pas en sachet. Alors, ça aussi, c'est un choix stratégique. L'avantage du vrac, c'est qu'on a des feuilles qui sont... Enfin, on sait exactement ce qu'on achète. On a des feuilles qui sont entières ou des feuilles cassées. Mais là, dans ce cas-là, on achète un thé qu'on appelle broken, donc un thé avec des feuilles cassées. On voit sur le thé en vrac, on voit les fruits, on voit les fleurs, on voit les épices, comme la cannelle, qui peuvent être ajoutées. Donc, on sait exactement... Enfin, moi, je tenais à ça. Je voulais exactement savoir ce qu'il y avait dans mes paquets et je voulais proposer à mes clients des thés qui ont véritablement les matières premières inscrites dans les ingrédients. L'inconvénient du petit sachet qu'on trouve dans le commerce, c'est que souvent, ce sont des déchets. Pas toujours, hein. Il y en a des bons, je ne veux pas généraliser, mais souvent, c'est des déchets, des brisures. Et puis, au final, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Et puis, votre sachet de thé, pour peu qu'il soit avec un papier chloré, en plus, vous récupérez du chlore. Donc, voilà. Moi, j'ai misé comme sur cette qualité. Et en fait, c'est très simple à utiliser. Chacun le dose comme il veut, avec une boule à thé, avec un sachet filtre, avec une pince à thé. Et voilà. Et je rejoins cette notion de plaisir. Chacun le dose comme il veut, en fonction de ses goûts à lui.
Donc vous proposez toute une gamme de produits, du thé, des infusions, des mélanges. Les mélanges, c'est vous qui les faites ou
Alors j'ai commencé à réfléchir avec une entreprise qui fait de la nourriture pour bébés. On a commencé à réfléchir sur des tisanes et des infusions donc pour les nourrissons. Donc j'espère que le projet aboutira. C'est en cours, ça avance pas vite, mais j'espère que ça aboutira. Après, je suis en train de travailler actuellement aussi sur mes propres mélanges, mais ça c'est pour moi une deuxième phase. Ça fait partie d'une évolution de, on va dire une évolution d'entreprise. Dans un premier temps, il est important que je me fasse connaître, que je trouve ma clientèle, que les gens apprécient mes produits, et de manière à ce que je passe à cette deuxième étape qui est plus coûteuse, c'est-à-dire il faut acheter de plus grosses quantités et puis commencer à faire mes propres mélanges. J'ai des idées, ça mijote. Ça mijote doucement.
Comment on se fait connaître sur Internet ?
Alors ça, c'est compliqué. Je dirais qu'il y a pour moi, il y a deux grands faisceaux. Alors, il y a les réseaux sociaux, évidemment. Ça, c'est incontournable. Donc, moi, je suis sur Facebook, sur Instagram et sur LinkedIn. Donc, voilà. Donc là, je vous invite à aller voir les publications Cochera sur ces trois réseaux, où là, vous avez de l'actualité en direct, en permanence, mes marchés, mes ventes, mes nouveaux produits, mes promotions, mes découvertes, ma partie blog. Et puis après, il y a la partie la plus complexe, c'est Google, c'est le référencement. Être vivant sur Internet aujourd'hui, c'est être visible. Et ça, c'est extrêmement compliqué, surtout quand on part de rien. Donc moi, la marque Cochera, personne ne la connaissait. Google ne la connaissait pas. J'ai un an d'existence, donc je sais qu'il va me falloir beaucoup de temps, beaucoup de travail sur le référencement, sur des publications payées, donc de la pub, pour sortir du lot, pour que Google commence à me considérer comme quelqu'un qui est intéressant. Ouais. En gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Que je puisse espérer atteindre les premières pages. Ça, c'est un travail qui est compliqué et qui est ingrat, parce que pour le coup, vous pouvez avoir les meilleurs produits du monde. Si vous n'avez pas la bonne stratégie vis-à-vis de Google, vous serez invisible et vous pouvez vendre à contrario n'importe quoi. Si vous êtes visible, ça peut marcher.
Et donc, ça demande de correspondre aux exigences de l'algorithme du robot Google.
C'est d'une complexité sans fin, parce qu'il faut définir donc des pages avec des mots-clés, mais il faut aussi d'écrire les pages avec des vraies phrases, du vrai texte. Alors, moi, le problème en vendant du thé, c'est que si je fais un thé vert du Rwanda et je propose un thé vert du Vietnam, ça reste du thé vert. Donc il faut que j'arrive à les décrire les deux en utilisant des mots différents. Alors il y a forcément le mot thé et le mot vert qui va revenir, mais c'est toujours très difficile de faire des descriptions qui soient valables pour Google qui soient pas redondantes et qui soient intéressantes pour le lecteur. Ouais. Non, c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Mm-hmm. Et je m'en rends compte d'ailleurs. Enfin, je le savais, mais aujourd'hui je le touche du doigt. C'est vraiment un métier particulier et c'est un métier à part.
Il y a tout ce côté vente en ligne, mais une fois que le client il a acheté du thé, il y a peut-être aussi un suivi et une attention particulière qui est faite pour fidéliser.
Alors déjà je fais de la vente en ligne, mais pas que. Ouais. Donc je suis présent sur des marchés, donc les gens qui m'écoutent, si vous souhaitez venir me rencontrer, en discuter avec moi et découvrir mes produits, vous pouvez me retrouver donc sur le marché de Morancé le vendredi après-midi. Je suis sur le marché de Lisieux le samedi matin, un samedi sur deux. Et à Lantilly, le dimanche matin, un dimanche sur deux. Ça, c'est pour la rencontre physique.
Ouais.
Après, je fais également beaucoup de journées à thème, que ça soit Rosé Nuit d'été, le Beaujolais Nouveau, ça peut être les marchés de Noël, ça peut être des fêtes de village. Donc là aussi, je suis des événements particuliers. Je suis visible à ces endroits-là. Après, donc, il y a évidemment la vente en ligne. Mais moi, mon objectif aujourd'hui, c'est d'intégrer un nouvel aspect commercial, une nouvelle matière de vendre, c'est d'intégrer des entreprises, alors que ce soit à travers des conciergeries ou à travers des marchés qui ont lieu au sein des entreprises, pendant la pause méridienne, souvent. J'ai eu l'occasion d'en faire quelques-uns, c'est quelque chose qui plaît beaucoup, parce que ça permet de rencontrer évidemment des salariés, discuter avec eux, leur faire goûter des produits. Ils ont pour eux la chance d'avoir des commerçants qui viennent à leur rencontre.
Ouais.
Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment développer.
D'accord.
Donc, je profite de votre antenne, si vous me le permettez. Je profite de votre antenne. Si des chefs d'entreprise m'entendent et ont envie de tester l'expérience ou simplement de faire appel à mes services s'ils ont déjà testé ce genre d'expérience, voilà, n'hésitez pas à me contacter. Donc, vous avez toutes mes coordonnées sur le site docochera.fr. Voilà, n'hésitez pas à me contacter. C'est quelque chose qui plaît beaucoup et moi, c'est quelque chose que j'ai envie de développer parce que je pense que c'est une manière aussi de fidéliser une clientèle, de rencontrer une autre clientèle. Souvent amatrice d'ailleurs de café, de thé, de tisane. Donc, et voilà, c'est vraiment l'objectif 2022 que je me suis fixé, c'est
développer cette entreprise.
Tout à fait.
Très bien. En attendant, y a toujours, on peut vous retrouver sur les marchés que vous avez cités, sur les événements. Et puis, il y a ce site internet, c'est tout simple, okoshira.fr, O-K-O-S-H-I-R-A. On remettra toutes les informations avec le podcast sur notre site internet.
Merci.
Merci beaucoup Fabien Gomez d'être venu nous présenter. Merci
à vous Mathieu, et j'en profite juste en deux mots pour remercier aussi Patrick Trouillou qui était un petit peu l'entremetteur qui m'a permis aussi de vous rencontrer.
C'est vrai, ouais. Merci, on le salue, on lui passe le bonjour au passage. Plaisir, à bientôt.
Au revoir.
Ensemble sur Calade.
Allez, on reste un peu dans la thématique encore un instant avec La Caution et leur titre Thé à la menthe.
Souvenir d'une madame Nicole, un street qui pensait qu'un bounoule n'était pas fait pour l'école. Je portais un velours troué, des bottes rouges en plastique, une cagoule en laine, un chandail ou des plaies baskets. Le coiffeur ne savait même pas encore que j'existais, mais sois sûr que le premier qui nous a vus s'est désisté. Pourtant jeune et innocent, la mort volée sans clinet. On squatte le bac à sable avec sa sable et nos idées afin de faire du vandalisme, même sans le savoir. Nos parents n'ont pas, donc on erre sans avoir. Après nos voisins de gros racistes, je le précise, nous étions mal élevés, leur berger allemand mieux dressé. Moi j'y crois pas, d'ailleurs j'y ai jamais cru, car parental est le seul amour que j'ai jamais vu. Donc pour pas se vénère, s'y met à la menthe, les vertus du nerne, donc du thé à la menthe.
Bidonville, ambiance clandestine dans un bar à barbès. Et à la menthe, couscous et tagine à la carte. plus de scopitone pour Mouloud et Saïd Abdallah. Avec un sale accent, pas de salam alek. Me dit Hassan l'athlète, originaire d'Algérie, d'Hollywood à Tamadrasset. Plus de thé à la menthe, juste des palabres amères. Comme un malade mental, j'ai mal à la tête. Je cravale en Stan Smith, Adidas, Jean 501, Savage Mental, puis si c'est v'là l'attentat. Pour quelques douces de plus, y'a des carnages dans l'air. Cette France me désintègre, on classe arabe comme un barbare bancal. Nique la culture du barbecue, du steak et j'ai fast food au bled. C'est la djé là-bas et les sondages bouge d'un à Casablanca. C'est banal en bas de la tête, je m'emmerde et je pèse que dalle. Ça se passe la frambade, mon rôle, ma peine et ma joie se confondent. Et c'est tout ce qui reste de notre héritage culturel. Notre héritage culturel.
La caution qu'on vient d'entendre sur Calade avec leur titre Thé à la menthe.
Ensemble sur Calade.
Le coach.
Et avant que vous me quittiez, mes louloutes, vous serez tous capables de faire la même chose.
Eh oui, il est l'heure de retrouver le coach. Bonjour, coach.
Salut, gamin.
Bon, comment allez-vous aujourd'hui ?
Mais ça va bien. Et toi, mon petit poulet ?
Toujours en forme, toujours en forme. Alors, de quoi est-ce que vous allez nous parler ?
Bah écoute, je dois t'avouer que j'ai douté un peu parce que entre hier le sujet que tu as abordé avec ton invité sur la sexualité, je me suis dit tiens, voilà un sujet intéressant. Aujourd'hui, ça parle de thé, de tisane, je me dis tiens, encore plus intéressant. Mais bon, finalement, j'ai choisi le sujet d'hier.
D'accord, d'accord. Ça vous intéresse plus. OK, c'est noté.
Les deux, enfin, on peut prendre des plaisirs intenses avec un bon thé ou une bonne partie de jambes en l'air.
C'est vrai.
Alors vous vous en doutez, mes louloutes, je suis pas un perdreau de l'année, j'ai quelques heures de route sans pour autant être bon pour la casse, hein, mais je peux plus me classer dans les occasions récentes. Alors ce qu'il y a de bien quand tu prends de l'âge, c'est que tu commences à avoir un peu d'expérience et que tu as pu évoluer sur des choses, tu as pu parfois comprendre où se situe l'essentiel. Et ce processus peut concerner tous les sujets de la vie, même les plus intimes comme la bagatelle, le hum hum, le lélélé, enfin, je vais pas vous faire un dessin quand même, hein.
Ouais. Non, on l'a compris.
Tout le monde a compris de quoi on cause.
Très bien.
On se fait souvent prendre dans un piège concernant les relations intimes, c'est celui de la performance. On a l'impression que ça ressemble plus à une compétition de patinage artistique avec un programme à respecter, des figures imposées et une note à la fin. Note technique et note artistique. Du coup, pour la bagatelle comme pour le patinage, à partir du moment où tu penses performance, tu peux pas t'empêcher de penser classement. Et tu te demandes si tu as été meilleur ou pire que les autres. Tu commences à faire l'analyse critique de ta prestation pour trouver tous les défauts, problèmes de réception, mauvais positionnement de la main, manque de fluidité dans la glisse, bref, tu vois, tout ce qui ne va pas alors que, objectivement, le spectacle était agréable comme ça. Et je trouve que la comparaison avec le patinage artistique, ben, elle est batte. Parce que dans les deux activités, il faut commencer par apprendre à faire du patin. On est quand même assez débile pour aller mettre de la performance et du défi jusque sous la couette, jusque dans les moments où tu recherches l'abandon de l'esprit dans les plaisirs du corps. J'ai trouvé que c'était joli déjà quand je l'ai écrit, maintenant que je le dis, je trouve ça encore plus joli.
Bravo.
Et c'est complètement débile, gamin, crois-moi. C'est aussi débile de mettre de la performance dans la bagatelle que ces histoires de programmes, de canevas de la bagatelle qu'il faudrait respecter avec des figures imposées. C'est complètement renfermant de rester avec l'idée que la figure finale du programme doit être absolument la toupie. Tu sais, quand la patineuse ou le patineur tourne sur eux-mêmes de plus en plus vite jusqu'à en perdre la tête. Mmh. Je vais vous dire un truc, mes louloutes, on n'est pas obligé de faire de la toupie à chaque fois qu'on pose le pied sur une patinoire. Parfois, un petit tour de patinoire, tranquillou, pour s'échauffer sur de la bonne musique, c'est le kiff. Il est plus que temps de faire un truc important. Dégageons la performance de nos plumards et laissons y rentrer à la place l'éloge de la lenteur, du temps long, de l'abandon du contrôle et bien sûr du plaisir intense et authentique. Cette attitude, cet état d'esprit sont à cultiver bien avant de se retrouver sous la couette. Prenez le temps de plier votre pantalon et de ralentir un peu la course du temps. Prendre le temps, c'est déjà sortir de la performance. C'est cultiver l'intensité plutôt que la rapidité. C'est s'appuyer sur l'intention plutôt que sur une supposée technicité. Et tu sais quoi, mon gamin ? Plus ton intention est intense, plus l'expérience vécue le sera. C'est grâce à cette alchimie que l'on peut faire cette expérience qui s'approche du sacré, suspendre le temps pour ressentir l'éternité dans un instant de jouissance. Alors je sais, mes louloutes, que c'est pas facile de remettre en cause des années de conditionnement et d'injonction à la performance quand on est soumis à cette norme par les médias, les vidéos pour adultes que l'on a regardées parfois bien trop tôt dès la sortie de l'enfance, les blagues douteuses des mecs épais sur leur performance, souvent inventées d'ailleurs. Je sais, c'est pas facile. Vous inquiétez pas, votre coach ne va pas vous laisser comme ça. Il y a un truc qui peut vous aider à vous mettre dans les conditions pour abandonner la tentation de la performance, pour la tentation tout court. C'est la musique. Et oui, la musique a ce pouvoir-là de calmer votre ego et votre mental pour vous aider à vous abandonner. Alors bien entendu, c'est à vous de trouver la musique qui vibrera en accord avec vous. Mais en attendant, je vais me permettre un petit conseil, Milouloute. Tentez le truc avec ce magnifique morceau que mon gamin il va vous passer juste après. C'est Can I Call You Rose des T-Sacred Soul. Ça va vous recentrer et ça va vous recentrer bien, bien, vous allez voir.
Parfait. Merci beaucoup, coach. À la semaine prochaine.
Et bonne soirée, mes louloutes.
Allez, bonne soirée, on se quitte en musique. Le coach dans cette émission avec ce titre The Sacred Souls qui nous ont chanté Can I Call You Roses.
Ensemble sur Calade,
l'humeur littéraire du libraire.
Allez, ben il est avec nous le libraire, il s'agit de Bertrand Lamure. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Bon, vous allez bien, vous êtes en forme?
Eh ben parfait, nous sommes le 1er février 2022 et c'est parfait.
Très bien. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous plaît dans cette
Je ne sais pas. Bah parce qu'on sent qu'il y a peut-être, si je dis bien, peut-être l'idée que le printemps n'est pas si loin.
Ah oui, oui, oui.
Donc à partir de février, moi, ça commence, ça va bien. Voilà.
Vous l'attendez avec impatience.
Ben, c'est un peu ça, je crois. C'est un
peu ça, voilà. Vous avez le calendrier de l'Avent du printemps.
Voilà. Et puis demain, c'est la Chandeleur.
Oui, c'est
quand même.
Vrai, aussi.
Non, non, il y a comme ça des dates fortes dans l'année, quand même, qu'il ne faut pas louper.
Très bien. Bon, écoutez, littérature, alors.
Eh bien, autre date forte qu'il ne faut pas louper, c'est bien évidemment la rentrée littéraire suite. Et quand je dis la rentrée littéraire, j'en ai déjà parlé, la rentrée littéraire d'hiver. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a un petit, je pense que c'est un effet Chandeleur, hein, je vois que ça, il y a un petit retour de flamme sur la rentrée littéraire d'hiver en cet office de début février. Mmh. Et je voulais mettre l'accent sur deux romans surtout qui paraissent demain, qu'on a bien aimé, voire limite adoré.
D'accord. Bon, on commence par
alors,
quoi?
On attaque avec le premier. Alors, ça s'appelle Les derniers jours des fauves de Jérôme Leroy. Et c'est à la Manufacture de Livres. Alors, la Manufacture de Livres, c'est une super maison d'édition. Mmh. Gérée de main de maître par Pierre Fourneau et qui est toujours dans le roman noir. Donc, c'est eux, bien évidemment, qui ont découvert Franck Bouys. Mais il est capable de nous faire aussi bien un album sur l'histoire des tatoués que sur, alors attention, la vie érotique de Michel Simon. Ça calme, je peux dire ça calme. Là. Alors là, on part sur un polar donc de Jérôme Leroy, que lui, on avait déjà vu dans deux, trois polars très bons, entre autres un qui s'appelait Le Bloc, c'était sur le FN à l'époque. C'était bien sanguinolent, bien comme il faut. Alors là, je situe le décor de ce polar. Moi, j'aime bien les polars où on en est au milieu de la nuit, on se dit, c'est pas possible, faut que je sache la suite, tant pis, je me coucherai à je sais pas quelle heure, tant pis, je regarde plus le réveil, mais je veux aller jusqu'au bout. Donc ça fait partie de ces polars-là. Mmh. Plus roman noir, d'ailleurs, que polar. Alors, je situe Nathalie Séchard. J'imagine que, Mathieu, tu situes Nathalie Séchard. Bah. Nathalie Séchard, présidente de la République.
D'accord.
Et elle s'est mariée avec quelqu'un qui a 25 ans moins qu'elle. Elle se chope pendant un été une grosse crise gilet jaune.
Ouais.
Là-dessus, une grosse crise pandémie avec, du coup, couvre-feu total. Mmh. Donc, la France crève de chaud. La France est enfermée chez elle et la France est en proie au gilet jaune. Alors ça pourrait rappeler, je vois arriver tout de suite à grands pas, mais ça nous rappelle quelqu'un qui serait marié avec une femme qui a 25 ans de plus qu'elle. Pas du tout, rien à voir.
Ouais.
Nathalie Séchard est présidente de la République et ça va pas du tout. Avec ce que je viens de dire. Et puis surtout, elle a un très très charmant ministre de l'Intérieur.
Ouais.
Alors, ce charmant ministre de l'Intérieur s'appelle Patrick Beauséant. Et alors, lui, c'est le vieux roublard de la politique. Hein. Il doit avoir 70 barreaux bien tassés. Vieux roublard, ministre de l'Intérieur, là, on pourrait dire, tiens, c'est un petit Pasqua ressuscité. Et alors, on plonge là-dedans avec donc tout cet univers surchauffé. Et avec un certain nombre de décès, alors qu'une fois on dit que c'est les islamistes qui ont tué, une autre fois on dit que c'est les gilets jaunes, une autre fois c'est inexpliqué.
Mmh.
Et il y a quand même ce Patrick Beauséant qui est au milieu, et on sent quand même que ça sent un peu la crapule. Quoi.
Voilà.
Et alors on est parti dans ce roman noir, donc dans cette France qui a très chaud et où il y a un jour il y a un ministre qui est dézingué, un autre jour c'est le nègre de justement Patrick Beauséant qui est en train d'écrire ses mémoires. Mais bon, évidemment, il n'a pas le temps. Hein. Donc il passe par un jeune auteur très naïf. Et voilà, il va pas rester naïf longtemps. Tout ça pour dire que c'est très bien ficelé, c'est politico-noir, politico-mafieux, et c'est très très bon. C'est très très bon. Alors évidemment, cette pauvre Nathalie Séchard, présidente, première fois de la République, elle a de la chance, elle est tombée sur un jeune homme qui va être son époux, qui est un poète, et qui rêve que d'une chose pour elle. c'est de finir dans une vie de Patterson. Alors, je ne sais pas si tout le monde se rappelle ce film Patterson. Je crois que c'était Monsieur Patterson, j'ai un doute. Ou en fait, c'était on suit sur de mémoire une semaine ou 15 jours la vie de Patterson, qui est conducteur de bus, film américain qui a 4-5 ans. Et en fait, chaque jour, c'est la même chose. Et en fait, il trouve son épanouissement dans cette régularité de vie. Et c'est un super film. Et donc, il rêve pour sa femme de voir une vie uniquement de Patterson. Alors, ça peut faire rêver jusqu'à un certain point. En tout cas, les derniers jours des fauves, évidemment des fauves politiques, je ne dirais évidemment pas la fin. Ça se termine pas en mode Heidi dans les petites Alpes suisses, hein, mais un peu plus rude que ça. Et c'est très, 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 très bien fait. Jérôme Leroy. Les derniers jours des fauves à la manufacture de livres.
Parfait. Deuxième. Le deuxième alors.
Alors le deuxième, on l'attendait évidemment depuis très très longtemps, puisqu'on a été très marqué par alors son deuxième livre qui lui avait lu un petit prix Goncourt en 2018 pour Leurs enfants après eux, c'est bien sûr le nouveau roman de Nicolas Mathieu.
D'accord.
Donc Nicolas Mathieu, donc Goncourt 2018, personnage très intéressant que on avait un peu perdu de vue, sauf si on suit son compte Facebook où il a toujours une analyse assez fine, assez décalée de la société. Et alors là, il sort un nouveau roman aux éditions Actes Sud, bien sûr, qui s'appelle Connemara. Alors, avant de vous parler du roman, je vous dis tout de suite, on va avoir la chanson de Sardou pendant tout le film, dans tout le livre. C'est à la fois bien pour ma génération, parce que quelque part, à Connemara, les lacs du Connemara de Sardou, on a quand même pas mal vécu ça. mais je reconnais que voilà, et ce matin je l'entendais encore une interview Nicolas Mathieu, et évidemment ça commençait avec les quelques notes de Connemara de Sardou. Donc j'ai Connemara de Sardou toute la journée dans la tête.
Ce qui est pas forcément toujours très bien.
C'est voilà, on n'ira pas plus loin. Mais ça fait partie des souvenirs de jeunesse du XXe siècle pour ma part. Connemara, c'est l'histoire d'une fille, Hélène. Très beau portrait de cette femme qu'on va suivre. Elle a la quarantaine. Elle a la quarantaine de ces femmes qui se sont élevées socialement. Maintenant, on appellerait ça transfuge de classe. Elle a fait carrière dans le consulting. Ça veut tout dire et rien dire. Mais voilà, ça permet d'avoir une certaine aisance sociale, financière. Et là, au bout d'un moment, quitté Paris avec sa famille, elle se retrouve à Nancy. Nancy, c'est un petit peu l'univers de Nicolas Mathieu. Mais on sent bien que voilà, c'est... Ça patine, ça routine. Voilà. Et un jour, elle rencontre un type qu'elle avait connu au lycée. Et ce type-là, lui, il n'a pas bougé. Et bon, il est commercial, autant dire qu'il vend des croquettes pour chiens, c'est autant dire que c'est le kiff total. et il va y avoir une histoire d'amour, mais sans être vraiment une histoire d'amour. Essayer de retrouver quelque chose, de retrouver une lumière, une étincelle dans cette vie qui n'est pas une vie dramatique, hein, mais une vie voilà, où on sent qu'il n'y a plus d'étincelle. Et ce qui est très 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 fort chez Nicolas Mathieu, c'est qu'on ne part pas dans une énième romance, une énième histoire d'amour qui finit de telle ou telle manière. En fait, le plus intéressant, c'est la profondeur de ces personnages, qui nous renvoie vraiment au réel, vraiment à ce qu'on vit tous, qu'on ait 30, 40, 50 ou 60 ans. C'est-à-dire cette vie qu'on mène avec ses hauts, ses bas, ses moments de joie, ses moments de routine, ses moments, je parlais tout à l'heure de Patterson, un peu ça. Et en fait, la manière dont lui, il va rentrer dans ce quotidien, il va rentrer dans ses personnages, c'est extrêmement bien vu, c'est extrêmement bien, il ausculte ça de manière brillantissime. Et on est sur un roman de la réalité, du quotidien, mais évidemment par un auteur qui ne veut en fait faire que ça, c'est-à-dire être dans ce quotidien, être dans cet univers de ces hommes et ces femmes, en l'occurrence ici Hélène et Christophe, Et c'est très, très, très bien fait. Une fois qu'on est rentré dedans, on a un petit peu de temps à rentrer dedans, je le cache pas, mais une fois qu'on est rentré dedans, on est vraiment capté par cet univers et capté par cet homme et cette femme. Et je reconnais que déjà leurs enfants, après eux, on était sur un univers ado des années 90 en Lorraine. Donc autant dire que l'adolescence est flamboyant. La Lorraine, années 90, elle est un peu moins. Donc on était vraiment de haut en bas, quelque part, dans l'échelle des émotions adolescentes au cours de ces années 90. Donc c'était vraiment très, très brillant. Et Nicolas Mathieu, qui lui est né en 78, pardon. Donc c'était effectivement cet ado dans les années 90. Là, il a la quarantaine tassée et il vient, voilà, il interroge cette quarantaine quelque part. Alors c'est pas forcément pour les quadras, hein, c'est pour tout le monde parce que c'est un vrai bonheur de lecture. Et évidemment Connemara est là parce que quand on est quadra, Connemara a automatiquement bercé les soirées endiablées des années 90, voire 80 aussi, je pense. Voilà. Donc deux très gros coups de cœur qu'on a eus qui sortent demain. Okay. Et comme les libraires ont parfois un peu la chance d'avoir les livres en amont, on s'était précipité dessus. Quelque part, c'est pas deux romans noirs, mais on est dans cette vie qui est faite de lumière, mais parfois aussi de consulting. Et il y a une très belle analyse du métier de consultant qui est absolument extraordinaire avec cette définition au final qui est qu'un consultant, il nettoie en fait une pièce vide.
Ah oui.
Et avec ça, ça calme pour un moment.
Donc vous nous avez parlé des derniers jours du fauve.
Les derniers jours des fauves de Jérôme Leroy, la manufacture de livres, brillant.
Ouais.
Et Connemara, du très talentueux et attendu Nicolas Mathieu, à la talentueuse maison d'édition Actes Sud, mais là, je crois que j'en ai déjà parlé, peut-être un peu trop, je le sais, mais c'est comme ça.
Très bien, merci beaucoup Bertrand pour ces conseils.
Avec grand plaisir, bonne lecture à tous et bonne journée.
Bonne journée, à la semaine prochaine.
Oui, bien sûr.
À bientôt, ciao, ciao.
Ensemble sur Calade.
Allez, c'est très très bientôt la fin de notre émission Ensemble sur Calade que vous retrouverez en rediffusion sur notre site internet radio-calade.fr. Rediffusion sur notre antenne, c'est demain à 10h. Et puis moi, je vous souhaite une bonne journée. Je vous donne rendez-vous demain à 12h12 pour un nouveau numéro. D'ici là, vous retrouvez dans quelques secondes toute l'information nationale et internationale avec le journal de RFI et puis toute votre information locale. Ce sera avec le journal de Sylvie Rosier. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et à vous dire à demain. D'ici là, prenez bien, bien soin de vous. Ciao, ciao.
Ensemble sur Calade.